Vous écoutez France Culture, 20h30. Tout de suite, le feuilleton. Correspondance de la famille Brontë. Lettre choisie par Julie Aminte et traduite par Constance Lacroix. En direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Quatrième épisode. Acton, Currer, Ellis, les trois frères Bell.
À la fin de l'année 1845, Charlotte Brontë découvre avec émerveillement les poèmes de Gondal, royaume imaginaire conçu par Émilie et Anne, et projette de publier un recueil commun. Émilie, peu soucieuse de reconnaissance, proteste, puis finit par se rallier au désir de ses sœurs, à condition de préserver son anonymat. Ainsi naissent leurs pseudonymes masculins. Acton pour Anne, Currer pour Charlotte, Ellis pour Émilie, à quoi s'ajoute le patronyme Bell pour Brontë. Le recueil de poèmes est publié l'année suivante chez Aylott & Jones, petite maison d'édition. Sa diffusion, à compte d'auteur, reste pour le moins confidentielle, ce qui ne les empêche pas de travailler chacune à la composition d'un roman. Anne écrit Agnès Grey, Charlotte le professeur, Émilie Léo de Hurlevent. Et c'est dans le plus grand secret, en usant toujours des mêmes pseudonymes, qu'en 1847, Charlotte, la plus opiniâtre des trois sœurs, transmet leur œuvre respective à différents éditeurs. Agnès Grey et Léo de Hurlevent sont acceptés par Thomas Newby, un éditeur londonien, tandis que le professeur essuie rejet sur rejet. Finalement, William Smith Williams, lecteur et adjoint de l'éditeur George Smith, bien que refusant le manuscrit, encourage Charlotte à entreprendre une œuvre plus ample. Elle achève alors en quelques semaines un roman en trois volumes, Jane Eyre, lequel est immédiatement accepté. C'est la naissance du secret des sœurs Brontë. Charlotte à William Smith Williams.
Haworth, le 28 octobre 1847. Cher monsieur, votre lettre m'a fait grand plaisir et m'a fourni matière à maintes réflexions agréables. Je suis fière d'avoir le suffrage de Mr. Thackeray, car Mr. Thackeray a le mien. Je sens bien tout ce qu'une telle déclaration a de présomptueux, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai depuis longtemps reconnu dans ses écrits la marque d'un de ces talents authentiques qui forcent l'admiration, un de ces talents qui font mon émerveillement et mes délices. Nul auteur, à mes yeux, ne s'entend mieux à séparer l'or de la boue, ne distingue plus subtilement le vrai de l'artifice. J'étais convaincue que ces dehors austères masquaient un cœur délicat et sincère, j'en suis à présent certain. Un seul mot d'éloge prononcé par un homme de cette trempe vaut mieux que des pages et des pages de louanges décernées par des juges ordinaires. Vous avez raison de ne pas douter de la réalité d'Hélène Burns. Elle exista bel et bien, et je n'ai rien embelli, au contraire. J'ai préféré taire nombre d'anecdotes que j'avais gardées en mémoire, de crainte d'exciter le scepticisme. Avec ceci à l'esprit, je ne pus retenir un sourire devant le dogmatisme et la suffisance béat d'un des journalistes qui décrète qu'une figure comme celle d'Hélène Burns, quoique d'une grande beauté, est une pure fiction. Il se peut que l'intrigue de Jane Eyre ne soit pas neuve. Mr. Thackeray note qu'elle lui semble familière, mais pour moi, qui n'ai lu qu'un nombre relativement restreint de romans, je ne l'avais jamais rencontrée et je la crus originale. Mieux vaut, je persiste à le penser, ne rien espérer de plus qu'un modeste succès lors de la parution de Jane Eyre. Pour ma part, je souhaite de plus en plus vivement qu'on lui fasse un accueil éclatant. Vous vous êtes donné tant de peine que je serais profondément navrée si vos efforts et votre diligence se voyaient frustrés de leur juste récompense et le bel optimisme de vos prévisions réduit à néant. Pardonnez-moi toutefois cette nouvelle mise en garde. J'ai grand peur précisément que ces dernières ne soient par trop optimistes. Il serait plus sage de les modérer. Qu'y a-t-il donc dans Jane Eyre que les critiques des gazettes et journaux mensuels pourraient bien trouver à louer, fût-ce du bout des lèvres, si tant est qu'ils daignent le lire? Il n'entre dans sa composition ni érudition ni recherche. On n'y traite d'aucun sujet d'intérêt général. Ce n'est qu'un pauvre roman domestique que des esprits de grande envergure et d'une solide culture ne se feront faute, je le crains, de juger bien frivole. Cependant, il serait impensable que votre inlassable énergie ne porte à quelque fruit, et je ne doute pas qu'il en soit ainsi. Croyez que je demeure, cher monsieur, votre serviteur dévoué. Coeur belle.
Comme l'avait prédit William Smith Williams, Jane Eyre, publiée en octobre 1847, fait sensation, éclipsant quelque peu le succès romanesque d'Agnès Grey et des Hauts du Hurlevent, publié en décembre de la même année. Les sœurs Brontë, réunies au presbytère d'Haworth, continuent de garder le silence, ne disant mot de leur entrée en littérature à personne, ni à leur père, souffrant de cataracte, ni à leur frère, profondément abattu depuis sa séparation d'avec Lydia Robinson, ni à Helen Nussie, la plus grande amie de la famille. Anne, à Helen Nussie.
Haworth, le 26 janvier 1848. Ma chère Miss Nussie, ce n'est pas une bonne lettre bien longue que je vais vous envoyer. Bien au contraire, j'entends m'en tenir à quelques maigres lignes destinées à se fondre dans un mot de Charlotte, qui vous sera, naturellement, infiniment plus agréable que tout échantillon de ma prose. Ce n'est pas que je doute de votre amitié et de votre estime, ou bien de l'accueil indulgent que trouverait ma missive, même si nul message plus attrayant ne l'accompagnait. Mais sachez-le, je souffre d'une regrettable atrophie de l'organe du langage, qui me dessert autant dans ma correspondance que dans la conversation, hormis lorsque j'ai quelques communications bien précises à faire. En l'occurrence, je vous dois des remerciements pour votre aimable lettre. Et j'en dois également à votre amie Miss Ringrose pour ses jolies chaînes de montre. Le fait qu'elle les ait confectionnées de sa main ne leur donne que plus de prix à nos yeux, n'en doutez pas, car Miss Ringrose est loin d'être pour nous une inconnue. Et je me réjouis, tant pour vous que pour elle, de la savoir toujours avec vous. Et j'espère que vous pourrez persuader Mr. Ringrose de vous la laisser quelque temps encore, car je suis sûre que cela vous serait très profitable à toutes les deux. Vous ne nous dites pas comment vous supportez ce temps si peu clément? Ce terrible vent d'Est nous maltraite cruellement. Charlotte, Émilie et moi avons tout eu droit à deux rhumes ou grippes en quelques semaines. Papa, lui, n'a pris froid qu'une seule fois. Il n'y a que notre servante Tabby d'épargner à ce jour. Je n'ai rien de nouveau à vous conter depuis votre visite. Nous n'avons pas quitté la maison une seule fois, n'avons vu personne et n'avons rien fait. Du moins rien de notable, quoique nous ne chômions pas un instant. Flossie est plus grasse que jamais, mais toujours assez alerte pour pourchasser les moutons avec délectation. J'espère que vous-même et les vôtres aurez été plus chanceux que nous en matière de rhume. Veuillez transmettre mes pensées les plus cordiales aux vôtres, et croyez que je demeure, ma chère Miss Nussie, votre amie très affectionnée. Anne Brontë.
Charlotte, à Helen Nussie.
Haworth, le 3 mai 1848. Chère Helen, touchant à la question que vous savez, je n'ai qu'une chose à vous dire. Si le bruit, si bruit il y a vraiment, s'il n'a pas été tout bonnement rêvé par la dame qui croit l'avoir entendu et qui ne semble pas avoir les idées très claires, existe, il ne peut résulter que d'un absurde quiproquo. Nul n'est en droit d'affirmer ou d'insinuer, même par les allusions les plus détournées, que je publie. Quelle baliverne ! L'auteur de ces propos, si les dits propos ont vraiment été prononcés, ce dont je doute, n'est certainement pas animé d'intentions amicales. On pourrait bien m'attribuer 20 livres que je n'en avouerai pas un seul. Je rejette cette idée avec autant de dédain que de dérision. Après ce désaveu explicite, seuls les gens désobligeants et grossiers persisteront dans de telles accusations. Mieux vaut une profonde obscurité plutôt qu'une publicité vulgaire. Publicité que je suis loin de souhaiter et que je fuirai toujours résolument. S'il se trouvait quelqu'un d'assez impertinent pour venir vous tracasser avec ses sottises, vous questionner sur le prétendu roman de Miss Brontë, répliquez-lui tout net, avec la fermeté sans appel que vous savez montrer quand vous le voulez, que Miss Brontë vous a autorisé à nier et démentir en son nom toute imputation de cette espèce. Ajoutez, si le cœur vous en dit, que si quelqu'un peut se targuer d'avoir sa confiance, c'est bien vous, et qu'elle s'est abstenue de tout aveu aussi inepte jusqu'à présent. J'ai mon idée sur la source de ces ragots, et je crains qu'elle soit loin d'être bien intentionnée. Ce n'est pas cependant une certitude absolue, et je serais heureuse d'en avoir confirmation. S'il vous revient aux oreilles de nouveaux détails, ne manquez pas de m'en informer. Et croyez que je demeure, contre vents et marées, calomniée ou épargnée, votre amie fidèle, Charlotte Brontë.
À cette même période, Branwell dépérit à vue d'œil, s'enfonçant de plus en plus dans l'alcool et les stupéfiants. Il est victime de délirium tremens et son comportement devient irrationnel et dangereux, ce qui, à en croire Charlotte, vaut à la famille des heures bien pénibles. Branwell à John Brown, sacristain d'Haworth, fin août 1848.
Cher John, je vous serais grandement reconnaissant si vous pouviez trouver moyen de me faire passer pour 5 pence de gin, en veillant à ce qu'on fasse bonne mesure. S'il vous était possible de vous les procurer rapidement, peut-être pourrais-je les recevoir moi-même, à l'entrée du chemin, de vos mains ou de celles de Billy, ou bien, ce qui serait tout aussi bien, vous envoyer quelqu'un qui me les rapportera. Je vous demande instamment de me rendre ce service, car je sais le bien que cela me fera. À 9h30 précise, le lendemain matin, vous serez défrayé de vos 5 pence sur la pièce d'un shilling qui m'aura été remise entre-temps. Votre ami, Patrick Branwell Brontë.
Branwell meurt brutalement en septembre, miné par les excès en tout genre, mais aussi sans doute par une tuberculose larvée. Anne à William Smith Williams.
Haworth, le 29 septembre 1848. Cher monsieur, ma sœur me prie de vous transmettre ses remerciements pour vos 2 lettres, qu'elle a accueillies avec beaucoup de plaisir, malgré les chagrins familiaux qui nous frappaient alors. Ce coup a tant ébranlé sa constitution délicate qu'elle a été prise d'une indisposition assez sérieuse pour lui interdire, aujourd'hui encore, le moindre effort. Même la tâche, pourtant si légère, d'écrire à un ami demeure pour l'instant au-dessus de ses forces. Je suis heureuse, toutefois, de vous assurer qu'elle a entamé sa convalescence et qu'elle sera très prochainement, je n'en doute pas, en mesure de vous faire part de son complet rétablissement et de ses impressions à la lecture de vos lettres. Dans l'intervalle, elle me charge de vous transmettre son souvenir le plus amical et se réjouit avec moi des bienfaits de l'air marin sur la santé de Mrs. Williams. Croyez que je suis, cher monsieur, bien sincèrement vôtre. Anne Brontë.
Charlotte, à William Smith Williams.
Haworth, le 2 octobre 1848. Mon cher monsieur, nous avons enterré notre mort et l'avons ôté de devant nous. Une accalmie survient après la lugubre tourmente que fut la semaine dernière. Il ne nous est pas permis de pleurer celui qui nous a quittés comme les autres pleurent leur propre perte. Il nous faut nécessairement accueillir la disparition de notre seul et unique frère comme une grâce plutôt qu'un châtiment. Branwell avait fait dans ses premières années l'orgueil et l'espoir de son père et de ses sœurs. Parvenu à l'âge adulte, il en fut autrement. Notre destin fut de le voir un jour se fourvoyer, d'espérer, de guetter, d'attendre son retour sur le droit chemin, d'éprouver la langueur des espérances différées, le désarroi des prières frustrées, de connaître enfin le désespoir et présentement, d'observer le terme brutal, précoce et obscur de ce qui aurait pu être une noble carrière. Ce n'est pas le sentiment de ce que j'ai perdu qui fait couler mes pleurs. Nul soutien ne m'a été ôté, nul réconfort ne m'a été arraché, nul compagnon chéri ne m'a été enlevé, mais le naufrage d'un talent, le néant d'une promesse, l'extinction morne et prématurée d'un esprit fait pour répandre une ardente et vive lumière. Mon frère était d'un an mon cadet. J'eus pour lui, jadis, il y a longtemps, bien des aspirations et des ambitions. Elles ont péri lamentablement. Il n'a laissé pour tout vestige qu'un souvenir d'égarement et de douleur. Je ne saurais exprimer l'amère pitié qu'éveille sa vie et sa mort, la poignante mélancolie qu'inspire la vacuité de son existence. Je veux espérer que le temps adoucira ses émotions. Mon pauvre père faisait tout naturellement plus grand cas de son unique fils que de ses filles, et longues et cruelles furent les souffrances qu'il eut à endurer par sa faute. Il a pleuré sa perte, clamant comme David pleurant Absalom « mon fils », et a d'abord repoussé toute consolation. Ce fut alors, quand il aurait fallu que je rassemble mes forces pour être à ses côtés et lui offrir un appui dans l'épreuve, que je succombais à une maladie dont je ressentais depuis quelque temps les atteintes et dont le déclenchement fut hâté par l'effroi et le trouble de cette agonie, la première dont j'ai jamais été témoin. Bien étrange me paraît aujourd'hui la semaine qui s'est écoulée. Dieu merci pour mon père, je suis mieux à présent, quoique faible encore. Je voudrais tant à la vérité posséder plus de force physique, car l'insuffisance des miennes m'entrave péniblement. Je ne peux faire ce que je souhaiterais faire, faute d'assez de vigueur corporelle pour agir efficacement. Mon malheureux frère ignora toujours ce que ses sœurs avaient accompli dans le champ des lettres. Il ne se douta pas un instant qu'elles n'eussent jamais publié une seule ligne. Nous n'avions pu nous résoudre à lui confier nos tentatives de crainte que le remords d'avoir si mal employé son temps et si mal usé de ses talents ne s'avéra trop profond. Voici qu'il n'en saura désormais jamais rien. Je ne puis évoquer plus longuement ce sujet, cela m'est trop cruel. Je vous remercie de votre bienveillante compassion. J'implore le ciel de faire de tous vos fils des hommes de bien, afin que vous soyez épargnés les souffrances que mon père eut à endurer. Bien sincèrement vôtre, Charlotte Brontë.
Quelques semaines plus tard, c'est Émilie qui tombe malade. Charlotte à William Smith Williams.
Haworth, le 22 novembre 1848. Mon cher monsieur, j'ai remis votre aimable lettre à Émilie après avoir pris connaissance de son contenu. Je me suis bien gardée cependant de lui dire un seul mot en faveur de l'homéopathie. C'eût été peine perdue. Mieux vaut, en règle générale, la laisser se faire une opinion par elle-même, en s'abstenant soigneusement de chercher à la fléchir dans le sens que l'on souhaite, car c'est le moyen le plus sûr de lui faire épouser le parti opposé. Et il y a fort à parier dès lors qu'elle trouvera 1000 arguments de poids pour ne pas suivre les conseils qu'on lui donne. Elle s'est jusqu'à présent refusée à tout traitement comme à toute consultation. C'est en vain qu'on l'a raisonnée, qu'on l'a suppliée. Rien n'a pu la convaincre de voir un médecin. Mr. Williams, a-t-elle déclaré après avoir lu votre lettre, est aussi attentionné que bien intentionné, mais il se berce d'illusions. L'homéopathie n'est jamais qu'un des visages du charlatanisme. Il se peut qu'elle revienne sur son verdict et se ravise. C'est souvent dans le second temps qu'elle se montre le mieux inspirée. La North American Review vaut la peine d'être lue. On n'y mâche pas ces mots. Quelle bande de mauvais garçons que ces belles, assurément, quels effroyables livres que les leurs. Aujourd'hui, Émilie paraissait un tant soit peu moins oppressée. Je crus que la review pourrait la divertir et lui en donner lecture à voix haute ainsi qu'à Anne. Assise entre elles au coin du feu, un peu mélancolique désormais, j'examinais ces deux féroces auteurs. Ellis, l'homme au talent hors norme mais au naturel obstiné, brutal et morose, gisait au fond de son fauteuil où il s'efforçait de respirer, le souffle entravé, et offrait, hélas, une figure pâle et émaciée à faire pitié. Rire n'est pas dans ses habitudes, mais il n'en écouta pas moins avec un sourire mi-amusé, mi-dédaigneux. Acton, lui, cousait, et comme il n'est pas une seule émotion qui ait le pouvoir de le rendre loquace, il se borna à sourire lui aussi, et ne laissa tomber qu'un mot, empreint d'une calme stupéfaction, en se voyant peint de si noires couleurs. Je me demande ce que le critique de la review aurait pensé de sa propre sagacité s'il avait pu, comme moi, contempler l'un et l'autre. C'est en vain de même qu'il aurait cherché l'associé masculin de la firme Bell et Compagnie. Avec quelle hilarité contenue le vois-je affirmer solennellement que Jane Eyre est le fruit d'une collaboration et que le roman porte la marque de plus d'un esprit et de plus d'un sexe. Les sages critiques baisseraient sans doute quelque peu dans leur propre estime s'ils savaient que jamais main masculine n'avait effleuré le manuscrit de Jane Eyre avant la vôtre ou celle de Mr. Smith. J'ai lu Madeleine. C'est une perle d'une belle eau, sertie avec simplicité. Julia Kavanagh s'est acquis ma considération. Je serais plus heureuse de faire sa connaissance que celle de bien des figures éminentes. Je suis contrainte de vous quitter sur un adieu abrupt. Bien sincèrement vôtre, Coeur Bell.
C'était « Correspondance de la famille Brontë », lettre choisie par Julie Aminte. Quatrième épisode. Avec les voix de Mélissa Barbeau, Benjamin Youngers, Aurélie Nusillard et Laurent Lederer. Musique composée et interprétée par Floriane Bonani. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Claire Levasseur, Émilie Couette, Vivien Demeyer, Juliette Eman. Les lettres choisies de la famille Brontë 1821-1855, dans la traduction de Constance Lacroix, sont publiés aux éditions Quai Voltaire, La Table Ronde.
Retrouvez le cinquième et dernier épisode dès demain soir sur le site franceculture.fr.
Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur franceculture.fr.